Ces enregistrements ont été réalisés lors du séminaire Évangile 21 intitulé « La parole et les actes, la vie du disciple à la lumière de la croix » qui s'est tenu à l'Institut biblique de Genève au mois de mai 2016. Les droits appartiennent à Évangile 21.
Voilà, bonjour à tous, c'est une joie pour moi d'être avec vous ici, en particulier pour parler sur ce thème. Merci d'être venus aussi nombreux, on se croirait en Afrique, la chaleur en moins, quand on enseigne en Afrique. On a toujours des gens devant, derrière, les fenêtres ouvertes. Il fait juste un peu plus chaud, mais c'est encourageant de voir autant de monde pour ce sujet. Développer une culture d'évangélisation. Alors, c'est une question qui se pose quand on voit nos églises, parfois, qui ont du mal à grandir. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que chaque chrétien soit impliqué dans une vision de mission qui permette à l'église de grandir, de se multiplier, d'amener des âmes à Christ, d'en faire des disciples qui, à leur tour, se reproduiront. C'est un sujet qui est parfois difficile parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite dans la Bible. La Bible nous donne des grandes lignes directrices, mais en fait, on est sur des sujets qui très vite deviennent très pratiques. Et je vais vous présenter des choses qui sont tirées de mon expérience, qui sont tirées de réflexions qu'on a au sein de France Évangélisation, qui sont tirées de réflexions qu'il y a entre différentes unions d'églises, notamment au sein du CNEF, au travers des communautés apprentissage, implantation et bientôt aussi développement d'églises. Mais ça reste des choses qui fondamentalement sont pratiques, et peut-être que vous avez d'autres expériences et d'autres remarques, et c'est pour ça qu'on aura aussi un temps d'échange et de questions, on pourra échanger sur cela. Donc voilà, l'idée c'est de donner quelques bases bibliques sur cette question, de vous montrer un petit peu comment moi j'ai pu fonctionner dans diverses expériences, quelques ressources issues de réflexions de missiologues, et puis de voir comment tout cela peut nous inspirer pour nos églises. Alors quand on parle de développer une culture d'évangélisation, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend par évangélisation ? Et ça pourrait paraître simple, mais en fait, parfois, quand on pose la question, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'il y paraît. Je ne vais pas passer des heures sur le sujet, on pourrait débattre pendant longtemps, des livres entiers ont été écrits dessus. Je reprendrai simplement la définition de la déclaration de Lausanne, qui a été un petit peu un texte fondateur sur toutes les questions de mission depuis un peu plus de 40 ans. Et voilà ce qu'il est dit à l'article 4 de la déclaration de Lausanne. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, la déclaration de Lausanne était écrite en 1974 sous la conduite de John Stott, suite au premier congrès pour l'évangélisation du monde, qui regroupait des chrétiens de plus de 150 nations. Évangéliser, c'est répandre la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts selon les Écritures, qu'il règne en Seigneur, et qu'il offre maintenant à tous ceux qui se repentent et qui croient le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit pour nous rendre libres. Notre présence chrétienne dans le monde est indispensable à l'évangélisation, de même qu'un dialogue ouvert dans l'amour afin de mieux comprendre le prochain. Mais l'évangélisation elle-même est la proclamation du Christ, persuader les hommes de venir personnellement à lui pour être réconciliés avec Dieu. Lorsque nous transmettons l'invitation de l'évangile, nous n'avons pas le droit de cacher ce qu'il en coûte d'être un disciple du Christ. Jésus continue d'appeler ceux qui veulent le suivre à renoncer à eux-mêmes, à se charger de leur croix et à s'identifier avec la communauté de ceux qui lui appartiennent. L'obéissance au Christ, l'intégration à son Église et un service responsable dans le monde sont les conséquences de l'évangélisation. J'aime bien cette définition parce qu'elle intègre à la fois une vision très claire de ce qu'est l'Évangile et de dire l'évangélisation, c'est fondamentalement l'annonce de l'Évangile, mais elle intègre aussi la conséquence directe de l'évangélisation, qui est de dire qu'après la conversion vient le fait de grandir en Christ, d'être un disciple, et que cela a des conséquences. Et si vous regardez du coup dans cette définition, vous avez en bleu ce qu'on pourrait appeler l'évangélisation, et puis ensuite, qu'est-ce qui va arriver dans la vie de disciple, et qui va induire que dès qu'on parle d'évangélisation, on va tout de suite parler derrière de formation de disciples. Autrement dit, quand on parle d'évangélisation, on est intégré dans quelque chose qui est plus vaste, qui est plus grand, que j'appellerais la mission. Et quand on regarde le texte de Matthieu 28, les versets 18 à 20, texte qu'on devrait connaître par cœur, où Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est la mission dans son ensemble. Et l'évangélisation est une partie de cela. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, en le texte français, lorsqu'on cite Matthieu 28, nous avons quatre verbes à l'impératif. Allez, faites des disciples, baptiser et enseigner. Et en fait, parfois, ça crée une confusion, et on a souvent tendance à croire que la mission, c'est d'aller. En fait, si vous regardez le texte grec, le seul mot qui est à l'impératif, c'est « faites des disciples ». Les trois autres mots sont au participe présent. Autrement dit, Jésus est en train de dire « le grand ordre, c'est de faire des disciples ». Et comment nous allons faire des disciples ? Nous allons les faire en allant dans le monde, en les baptisant, c'est-à-dire les intégrer à l'Église, et en leur enseignant à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Ce qui veut dire que dans la mission, il y a un double mouvement. Il y a un premier mouvement qui part de l'Église pour aller vers le monde. Nous allons dans le monde pour faire des disciples, c'est le premier mouvement, et c'est l'évangélisation. Nous y allons avec l'Évangile, nous y allons à la manière de Christ, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous y allons avec la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a un deuxième mouvement dans la mission. C'est un mouvement qui part du monde pour aller vers l'Église. Ce sont des gens qui répondent à l'Évangile, à qui nous n'avons pas le droit, comme le dit la déclaration de Lausanne, de cacher ce qu'il en coûte d'être un disciple. Et Dieu les appelle à se repentir et à être intégrés à l'Église, le baptême, et puis ensuite à apprendre à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on parle de développer une culture d'évangélisation, en réalité, il faut aussi parler de développer une culture de discipulat. Parce que si vous cultivez que le premier mouvement sans cultiver le deuxième, en fait, vous ne créez pas une culture. Si nous amenons les gens à croire en Christ, mais qu'une fois qu'ils sont convertis, simplement, ils restent dans l'Église et que personne n'en fait rien, ils ne reproduiront jamais à leur tour ce mouvement d'évangélisation. C'est uniquement parce qu'ils vont être intégrés à l'Église et enseignés à obéir qu'ils vont à leur tour pouvoir être engagés dans ce premier mouvement. Et donc les deux mouvements s'entretiennent mutuellement. Ça veut dire que quand on parle de bâtir une culture d'évangélisation, on parle aussi de bâtir une culture de discipulat, on pourrait dire une culture missionnelle, le mot est un peu débattu, mais c'est l'idée de dire une culture où tout le monde est investi, impliqué, centré sur la mission. Qu'est-ce qu'une culture d'église centrée sur la mission ? C'est une culture où la mission est au cœur des préoccupations de l'église dans son ensemble, non seulement des responsables, mais de chacun des chrétiens qui sont dans l'église. Et toutes les activités de l'église, à un moment, sont aussi orientées dans le sens de cette mission. Alors, lorsqu'on pose cette question, ça ouvre souvent plusieurs débats et il y a quelques pièges à écarter. Il y a deux positions extrêmes dans lesquels je pense qu'il ne faut pas tomber. Une première position, un premier piège, c'est de voir l'évangélisation et la mission comme des activités de l'Église. Il y aurait un petit peu la communion fraternelle, la prière, et puis aussi l'évangélisation, et puis la mission. Et ce sont des parties, et certains chrétiens s'investissent dedans, et puis c'est comme ça. Je pense qu'il y a dans l'évangélisation et la mission quelque chose qui n'est pas seulement du domaine du faire, mais qui fait partie intégrante de l'identité même de l'Église. Nous sommes là pour être un peuple qui manifeste au monde qui est Dieu. Et donc la mission n'est pas une activité particulière que nous faisons, ça fait partie intégrante de notre identité. Et c'est pour ça que ça devrait être au cœur de la culture. Néanmoins, il y a un danger dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est de dire que finalement, l'Église, c'est la mission. C'est-à-dire que l'Église n'aurait aucun autre but que de réaliser la mission, et je pense que là, on irait trop loin. Et c'est Henri Blocher, il y a quelques années, dans un article paru dans Promesse qui refusait cette hypothèse en disant que la mission précède l'Église. Nous sommes nous-mêmes des fruits de la mission de Christ, qui est le premier missionnaire qui vient dans le monde. Nous sommes donc au bénéfice, nous sommes des instruments pour cette mission, mais l'Église va bien au-delà de la mission. Un jour, la mission s'arrêtera, l'Église continuera pour l'éternité, parce que la finalité, c'est l'adoration. Et j'aime cette phrase de John Piper, qui dit que s'il y a mission, c'est seulement parce qu'il n'y a pas encore l'adoration sur toute la terre. Donc la mission est une réalité temporaire avec laquelle nous devons vivre. L'Église a pour finalité l'adoration, et la mission est au cœur de la vocation présente de l'Église, parce qu'elle permet à l'Église de s'aligner sur le dessein de Dieu, qui est de se former un peuple d'adorateurs pour sa gloire. Et moi, il y a deux textes qui sont assez clés pour voir cet aspect prépondérant de la mission dans la vocation présente de l'Église. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. « Vous êtes une nation sainte, une race élue, un royaume de prêtres, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. » Et c'est intéressant de voir que la même formule sera reprise dans l'Apocalypse, mais les questions à ce moment-là, plus que d'un royaume de prêtres, il n'y a plus la notion d'avancer les vertus. Pourquoi ? Parce que la mission est terminée. Mais dans la réalité présente, La mission fait partie de notre identité de peuple de Dieu, un peuple missionnaire. Un autre texte qui me semble aller dans ce sens, c'est dans Luc 24, versets 46 à 47. C'est le moment où Jésus-Christ ressuscité enseigne ses disciples. Il est dit que Jésus leur montra à partir de toutes les Écritures qu'il fallait que le Fils de l'homme meure, qu'il ressuscite le troisième jour et que la bonne nouvelle serait prêchée à toutes les nations en vue de la repentance et du pardon des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'Évangile, il y a la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et l'annonce à toutes les nations. Autrement dit, certains théologiens ont dit que la mission était l'aspect eschatologique de l'Évangile. Elle est en train, quelque part, de parachever cet Évangile, Dieu qui sauve un peuple d'adorateurs de toute tribu, de toute langue et de toute nation. La mission est au cœur de la vocation de l'Église. Elle s'accomplit par nous, même si, bien sûr, nous en sommes les premiers bénéficiaires. Et puis un jour, elle s'arrêtera. L'adoration continuera une fois que la mission sera terminée. Alors, comment mettre en place une culture centrée sur la mission? Je vais voir avec vous 5 leviers, à mon sens, sur lesquels il faut travailler dans une église si on veut mettre en place une telle culture. La première chose, je dirais, c'est de travailler sur la conviction. Lorsqu'on parle de créer une culture d'évangélisation, de discipulat, la première chose souvent qu'on va se poser comme question, c'est comment est-ce qu'on fait? Quels sont les outils? Comment est-ce qu'on forme un chrétien à témoigner? Je pense que nous posons mal le problème. Vous pouvez expliquer à un chrétien pendant des heures, comment est-ce qu'il pourrait témoigner? S'il n'est pas convaincu qu'il doit le faire, il ne le fera jamais. A l'inverse, un chrétien qui est convaincu qu'il doit témoigner ou faire des disciples, même s'il n'est pas équipé pour, il va commencer à le faire. Il le fera peut-être plutôt mal, peut-être pas aussi bien qu'il devrait le faire, mais il le fera parce qu'il a la conviction qu'il doit le faire. Et c'est intéressant de voir dans les textes de l'Évangile, vous prenez la femme samaritaine ou l'aveugle-né, des gens qui sont transformés par Jésus et qui, tout de suite, commencent à parler de lui. Et vous regardez l'aveugle-né, il parle de Jésus, puis au début, il dit c'est un homme, puis après, c'est un prophète, puis après, il l'appelle Seigneur. Et au fur et à mesure qu'il commence à agir, sa compréhension augmente. Mais c'est d'abord une affaire de conviction. Le problème est théologique avant d'être technique. Et si dans votre église, vous devez développer une culture, la première chose sur laquelle il va falloir travailler, c'est cet aspect théologique. Convaincre l'Église et les disciples que la mission fait partie intégrante de leur identité. Et c'est intéressant, par exemple, d'enseigner sur le projet de Dieu au travers de toute l'Écriture, comment déjà il avait prévu au travers d'Adam d'avoir un peuple qui couvre toute la terre, comment cette promesse est renouvelée à Abraham, comment Israël avait cette vocation, et puis comment, ultimement, dans l'Église, cette vocation se retrouve. Et à la fin, nous sommes ce peuple, la mission est achevée. Donc c'est des questions qui se posent, et il va falloir en particulier traiter notamment ce type de questions. Quel est le rôle de l'Église, par exemple? Est-ce que l'Église est une institution ou est-ce que l'Église est un peuple missionnaire? En fonction de la manière dont vous répondez à ces questions, vous n'aborderez pas du tout les questions d'évangélisation et de mission de la même façon. Tout chrétien est-il appelé à témoigner? C'est une question que certains se posent. Parfois dans l'Église, on va dire, mais moi je ne suis pas sûr d'être concerné par cela. Et donc, tant que les gens n'ont pas eu la conviction que Dieu les appelle à retransmettre leur foi, vous pouvez leur enseigner tous les outils que vous voulez, ils ne le feront pas. Une question qui est peut-être plus difficile, que même beaucoup de pasteurs parfois se posent, et certains n'ont pas le même avis que moi sur la question, c'est cette question: suis-je vraiment un disciple si je ne suis pas en train de faire d'autres disciples? Et moi, ma réponse à cette question, c'est non, et je vais la développer en particulier, parce qu'elle inclut la question du témoignage, qui est une partie de faire des disciples. Je suis convaincu, pour ma part, que tout chrétien est appelé à faire des disciples et que tout disciple devrait être en train de faire d'autres disciples. Je vais prendre le temps de développer un petit peu pourquoi je pense cela. Une première raison, c'est le fil rouge de l'Évangile. On va en reparler un petit peu après, mais quand vous regardez les Évangiles, vous vous rendez compte que dès le jour où Jésus a appelé ses disciples, il leur a appelé dès ce jour-là à un jour reproduire ce qu'il faisait. « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et puis, à plusieurs reprises, Jésus va envoyer les 12 en mission, mais également d'autres. Il va envoyer les 70, il va envoyer d'autres qui vont partir. D'autres vont le faire spontanément, comme la Samaritaine, comme l'aveugle-né dont on parlait. Et puis, tout à la fin de l'Évangile, il les envoie définitivement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve uniquement à la fin. C'est quelque chose qui est là depuis la première page jusqu'à la dernière. Alors, même qu'ils sont en train d'être équipés par Jésus, il les met déjà en mission. Une autre chose qui me montre que tout disciple est appelé à faire d'autres disciples, c'est le texte que nous avons cité de Matthieu 28. Jésus dit à ses 11 disciples, notez bien, ils sont appelés dans le texte disciples et pas apôtres, même si nous savons qu'il s'agit des apôtres, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », et il ajoute « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Qu'est-ce qu'il vient juste de leur prescrire ? De faire des disciples. Donc, dans « Enseigner à faire tout ce que je vous ai prescrit », cela devrait au moins inclure l'ordre qui est juste à côté, à savoir de faire des disciples, et bien sûr tous les autres ordres qui sont avant. Enfin, je pense que dans la nature même du mot « disciple », parfois on a dit que le disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Mais si on regarde dans tous les domaines où le disciple est utilisé, dans l'Antiquité, il y avait des disciples de maîtres spirituels, de philosophes, etc., le disciple suit le maître, mais c'est aussi celui qui poursuit la mission du maître. Si vous êtes enseigné dans l'école de Platon ou de Socrate, lorsque vous sortez, eh bien, vous annoncez leur enseignement. Vous n'êtes pas simplement en train d'écouter, vous êtes en train de retransmettre. Si vous êtes disciple dans les arts martiaux, vous êtes appelé à faire comme le maître. Si vous êtes disciple d'un boulanger, vous êtes appelé un jour à avoir votre propre boulangerie et à former vous-même des apprentis. Une dernière chose qui me pousse à aller dans ce sens, c'est que plusieurs fois, Jésus va dire que tout disciple sera comme son maître. Le disciple accompli sera comme son maître. Et je pense qu'il y a une notion de maturité qui est là. Et la maturité dans la vie, on le voit sur le plan biologique, ça se caractérise par la reproduction. Un être humain est arrivé à la maturité quand il est capable de se reproduire. Et je pense que de la même façon, un disciple arrive à la maturité quand il commence à se reproduire. Alors est-ce que tous le feront ? Non ! Comme certains ne se reproduisent jamais humainement. Est-ce que tout parent est appelé à éduquer ses enfants ? Oui ! Est-ce que tous le font ? Non ! C'est pour ça que nous avons des services sociaux. Et je pense que de la même façon, dans l'Église, quelque part, tout chrétien est appelé à faire des disciples et certains ne le feront jamais. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais eu la conviction, peut-être parce qu'on les a mal enseignés, peut-être parce qu'ils ont des déficiences, des handicaps, peut-être mentaux, etc., qui, tout en leur permettant de croire à l'Évangile, ne leur permettent peut-être pas d'avoir la capacité de le retransmettre. Mais ce n'est pas pour ça, parce qu'il y a ces exceptions-là, que nous devrions sortir de l'idée que, d'une manière générale, tout chrétien est appelé à faire d'autres disciples. Et on verra comment ils doivent le faire, parce qu'il y a souvent des incompréhensions aussi sur le comment. Deuxième axe, une fois qu'on a travaillé sur la conviction, c'est de développer ce que j'appellerais un écosystème de discipulat. Alors pourquoi est-ce que je parle d'écosystème ? Parce que je pense qu'un des gros pièges quand on parle de faire des disciples, et c'est souvent quelque chose qu'on reproche au mouvement de disciples, c'est qu'une fois qu'on a dit tout chrétien doit faire des disciples, on a un petit peu l'impression qu'on est en train de dire que moi par exemple je suis chrétien, et puis je vais prendre une personne et je vais l'amener de la conversion à l'enracinement, à la découverte de ses dons, et puis à l'équiper à faire d'autres disciples, moi, tout seul. Je ne pense pas que ça marche ainsi. Ça ne marche pas uniquement dans du 1 à 1. L'ordre reste collectif, et même si chaque chrétien est appelé à s'impliquer dedans, il y a aussi quelque chose qui se produit dans la communauté, de façon qu'on ne peut même pas expliquer. C'est simplement dans les relations et les interactions dans l'Église que cela se produit. Alors regardons comment est-ce que Jésus, lui, s'y est pris pour faire des disciples. Si on regarde dans l'évangile de Marc, c'est l'avantage d'être le plus court, il y a moins d'enseignements, et donc du coup on voit bien les actions de Jésus. On voit dès le début que qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il les a d'abord évangélisés. Il prêche l'évangile, il dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. » Et puis après, un petit peu plus loin, il va prendre ses disciples avec lui, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il les prend à ses côtés. Ensuite, il va en sélectionner quelques-uns, un petit peu plus loin, trois chapitres après. Il appela ceux qu'il voulut, il vint auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc une fois que Jésus leur a transmis certaines bases, suivez-moi, il va les qualifier, il leur donne des dons particuliers. Et puis à la fin, il les envoie prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est intéressant de voir, si on met en parallèle avec l'évangile de Jean, qui est plus chronologique, on voit les fêtes de la Pâque, qu'en fait, c'est tout de suite au début de son ministère qu'il commence à dire « Venez et voyez ». On voit que Jésus est d'abord en Galilée, les disciples suivent, ils vont passer une journée avec lui. Jésus part à Jérusalem, il revient en Galilée, c'est là où les synoptiques démarrent, il leur dit « Suivez-moi ». Entre les deux, il s'est passé un an. Intéressant, n'est-ce pas ? Il commence à croire en Jésus, il se passe un an, et ensuite il commence à demeurer avec Jésus. Quelqu'un disait « On ne suit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas ». Jésus a pris un an pour faire cela. Et puis après, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va les prendre avec lui pour les équiper. Et puis, à la fin, il va les envoyer. Et je pense que quelque part, quand nous parlons de faire des disciples, il y a quelque chose dans la manière dont Jésus fonctionne, dont on devrait s'inspirer et qui peut nous aider à le faire là où nous sommes. Si on regarde, Jésus est passé par quatre phases. La première phase, c'est la phase d'évangélisation. Vous avez des gens qui sont là, qui sont spectateurs, et Jésus les invite à se repentir, à croire, ils deviennent des croyants. Puis Jésus ensuite demande de les suivre. C'est ce que j'appellerais l'enracinement. Ils deviennent engagés pleinement à côté de Jésus. Ils sont déjà des disciples du moment où ils croient, ils n'ont pas encore compris toutes les implications. Ils s'engagent, ils demeurent avec Jésus. Ensuite, ils sont apprentis. Vous voyez Jésus qui, pendant 3 ans, les envoie, les reprend. S'ils ont fait des bêtises, il les corrige, il les renvoie à nouveau, il les reprend, et ainsi de suite. Il les équipe. Et puis, à la fin, Jésus les envoie définitivement. Et donc, du coup, le disciple, à la fois, vit avec le maître, mais en même temps, il est incité, capacité à poursuivre la mission du maître. Comment est-ce que Jésus a fait ça? Il ne l'a pas fait simplement en un à un. Il l'a fait avec différentes composantes. D'abord, il les a mis en immersion. Ils étaient tous dans un groupe, et ce n'était pas un groupe isolé sur une montagne, mais ils étaient au contact du monde réel, avec des vrais problèmes et des circonstances parfois difficiles à gérer, des conflits, des choses comme ça. Et puis, il leur a mis des aspects d'apprentissage et d'enseignement. Et alors, ce qui est intéressant de voir dans les évangiles, c'est que la plupart des enseignements de Jésus pour ses disciples sont plutôt sur la fin que sur le début. Et ça pose la question. Jésus a d'abord exigé de l'obéissance avant de transmettre des connaissances. Et souvent, nous avons tendance, nous, à mettre des connaissances et puis à penser que parce qu'il va y avoir des connaissances, les gens vont grandir, et parce qu'ils vont grandir, ils vont obéir. Mais la manière de Jésus, c'est plutôt de dire « Tu obéis à ce que je te dis, parce que tu obéis, tu grandis, et parce que tu grandis, eh bien, on te donne davantage d'éléments pour que tu puisses continuer. » Donc c'est l'obéissance avant tout qui va entraîner la croissance de ses disciples. Donc si on regarde la manière dont Jésus s'est pris, c'est pas simplement de l'enseignement un à un, mais c'est en fait tout un écosystème qui permet à ses disciples de se développer. Et la question, c'est comment faire cela dans nos églises. Alors quand on réfléchit sur les structures que nous avons pour développer un écosystème, on peut en identifier 4, certains en voient moins, mais voilà un petit peu ce qu'on retrouve. Donc vous avez au centre cette petite plante qui est l'image du disciple qui grandit. Au début, il peut être en contact dans la sphère de l'église, n'être même pas encore chrétien, et puis il va devenir chrétien, et finalement, à la fin, il va être capable de se reproduire. 4 structures qu'on va retrouver. La première chose, c'est des cultes. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'un culte qui favorise le discipulat devrait intégrer une certaine interaction. Alors, je ne suis pas forcément pour des prédications interactives. Certains pensent que ça devrait être le cas, que dans le dialogue, il y a quelque chose de pédagogique. Je pense que c'est vrai, mais je pense que dans le cadre du culte, il peut y avoir aussi quelque chose de très sain, simplement à écouter une bonne prédication et apprendre à s'y soumettre. Par contre, il devrait y avoir des éléments peut-être d'interaction, ne serait-ce que de permettre aux gens qui sont dans la salle de prier. Peut-être permettre aux gens aussi de répondre de façon concrète à la parole de Dieu. Moi, je viens d'une église où nous avions l'habitude de mettre la scène au milieu du culte, et à présent, nous la mettons à la fin, un petit peu comme le faisaient les premiers réformateurs. Et quelle est l'idée derrière cela? C'est de dire, nous avons entendu la prédication. Si elle était centrée sur Christ et sur l'Évangile, elle nous a poussé quelque part à la rencontre avec Christ, et donc nous voulons que les chrétiens aient la possibilité d'y répondre. Et rien qu'en faisant cela, on sort déjà de cette idée de consommation. On est dans une idée d'engagement, il y a une réponse qui attend. Donc ça, c'est une première culture, une première sphère pardon, à travailler, le culte. Un autre aspect, vous l'avez en bas, c'est l'accompagnement spirituel. C'est là où on va retrouver ces choses de un à un, qui peuvent être aussi du petit groupe. Le danger parfois de là-dessus, c'est d'avoir de l'accompagnement qui est uniquement de type catéchique. Et vous avez des chapitres, Dieu, la Bible, Jésus, et c'est uniquement des connaissances. Mais on l'a vu, lorsque Jésus a fait ses disciples, il a demandé avant tout de l'obéissance. Et donc ce qu'il va falloir dans cet accompagnement, c'est plutôt qu'on apprenne aux chrétiens qu'est-ce que ça veut dire vivre avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire que faire son culte personnel? Qu'est-ce que ça veut dire que souffrir avec Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire de témoigner? Parce que s'il a appelé un jour à se reproduire, c'est dès le début qu'il est chrétien qu'il va falloir commencer à lui l'apprendre. Et donc on va cumuler à la fois des connaissances et également des compétences et de l'obéissance. Une structure qu'on va retrouver, c'est des structures j'appellerais de communion fraternelle. C'est typiquement ce qu'on a parfois dans nos églises avec les groupes de maison. Des endroits où la plus propice à la discussion, on peut discuter autour de la parole. Et là encore, un des dangers, c'est par exemple d'être uniquement sur un modèle de transmission, de type étude biblique. C'est bien, les gens reçoivent de la connaissance, mais est-ce que ça les pousse vraiment aussi à reproduire la mission du maître? Et il y a d'autres modèles, par exemple, c'est de réfléchir peut-être simplement avant nos réunions, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question comment s'est passé la semaine d'avant, intégrer des éléments de feedback. Et puis à la fin, de dire, mais avec l'étude que nous avons vue, qu'est-ce que Dieu nous dit pour la semaine qui arrive? Quel est le défi pour nous? Et ça pousse les gens à s'engager, et ainsi on les pousse non seulement à connaître, à grandir, mais aussi à reproduire. Et puis une quatrième structure qu'on peut trouver, c'est ce qu'on appellerait des structures de redevabilité. C'est l'idée de dire qu'on va prendre les gens et on va leur demander volontairement de se rendre redevables sur leur vie envers d'autres frères et sœurs dans l'Église, de partager leurs combats, de partager leurs difficultés, d'accepter qu'on leur pose des questions et de dire « voilà, j'en suis là et j'aimerais aller plus loin ». Ça, c'est les différentes cultures, quoi, les différents aspects qu'on peut utiliser. Et donc, vous voyez que c'est bien plus complexe que de dire simplement « chaque chrétien fait un disciple tout seul de son côté ». Il y a quelque chose de profondément communautaire et qui fait qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment les disciples grandissent. Moi, par exemple, je suis en train d'apprendre à un jeune homme dans mon église à faire de l'accompagnement spirituel pour des jeunes convertis, et il est en train de former son voisin qui s'est converti il y a quelque temps. Et puis donc, il le voit chaque semaine, mais en même temps, ce voisin-là assiste au culte. Il est aussi dans un petit groupe où il partage ses difficultés, et puis il va au groupe de jeunes, qui est une structure de communion fraternelle, où il échange avec d'autres. Et donc, au fil de tout ça, il grandit, et c'est finalement très difficile de savoir de qui il est le disciple. C'est pas grave, il est un disciple du Seigneur. Mais néanmoins, chaque chrétien dans l'Église est impliqué intentionnellement pour que, ensemble, la communauté avance. Donc en faisant ça, on va retrouver des structures d'immersion, on vit en communauté, au milieu du monde, des structures d'apprentissage, compétences, obéissance, et puis des aspects plus d'enseignement. Alors voilà un exemple à Saint-Étienne, un petit peu des outils que nous utilisons pour faire ça, c'est le troisième axe. Donc premier axe, on travaille sur la conviction, deuxième axe, on développe un écosystème. Troisième axe, c'est l'idée de former tous les chrétiens avec des outils reproductibles. Pourquoi reproductibles? Dans l'idée de créer un ADN commun. On essaie de tous passer par là, ça contribue à créer cette culture. Alors nous, pour l'évangélisation, on encourage déjà chaque chrétien à savoir expliquer l'évangile. Et c'est intéressant, si vous faites l'expérience dans votre église, vous demandez aux gens combien parmi vous savent expliquer l'évangile en quelques mots. Et on se rend compte qu'en fait, énormément de chrétiens ne savent pas le faire. Ils ont compris de façon un petit peu conceptuelle l'évangile, mais de là à savoir l'expliquer, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc l'idée, c'est de l'apprendre, de dire que tous les chrétiens doivent savoir expliquer l'évangile parce qu'on veut qu'ils témoignent de leur foi. Donc on veut qu'ils apprennent à dire des éléments de base sur Dieu. Dieu nous a créés, Dieu est saint, Dieu devait être notre roi. Des éléments de base sur la condition humaine. Nous avons rejeté la royauté de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le péché. Nous sommes devenus nos propres dieux. Nous décidons à la place de Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. Et à cause de cela, nous sommes coupables devant Dieu. Et puis nous apprenons à leur dire des éléments sur Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Christ à la croix prendre sur lui la colère de Dieu pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et on apprend à leur communiquer des éléments sur la réponse que Dieu attend. Dieu t'invite à te repentir, c'est-à-dire à accepter à nouveau que Dieu soit roi dans ta vie, à croire dans l'œuvre de Christ à la croix et à te confier en lui. Et si tu fais cela, eh bien tu seras pardonné de tes péchés, tu recevras une nouvelle vie pour aujourd'hui, une nouvelle naissance et don du Saint-Esprit. Et tu auras la vie éternelle auprès de Dieu, une espérance pour demain. Et donc on explique les chrétiens à dire ça de différentes manières à partir des textes bibliques. On a aussi des outils d'études bibliques. Par exemple, on a un outil qui s'appelle l'essentiel de la Bible, qui a été mis en place par l'Église des Frères de la Grâce à Lyon. On fait le tour de la Bible en 12 leçons. Et donc on explique, alors on a démarré en petits groupes, et puis on a intégré des jeunes convertis de l'Église dans les petits groupes en leur disant « voilà comment se fait l'outil ». C'est simple, il y a un texte à lire, des questions à poser, on discute, ils peuvent le refaire avec d'autres. On a un autre outil basé sur les 7 miracles de l'évangile de Jean. Et l'idée, c'est de dire, dès que tu deviens chrétien, on t'encourage à apprendre à utiliser ces outils pour le faire avec des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Une fois que la personne se convertit, on va l'enraciner. Donc, le but de l'évangélisation, c'est d'arriver à la conversion, l'enracinement, c'est d'arriver au baptême. Ici, nous, on utilise un outil qui a été importé en France par l'église de Loche, la France Mission, en particulier Raphaël Hansenberger, et c'est un outil qui s'appelle SLS en anglais, ou LVS en français, 13 leçons de vie spirituelle. C'est un outil qui suit l'évangile de Jean, avec à la fois des aspects pratiques et des aspects de connaissance, et ça permet de transmettre tout un tas de bases. Comment on fait le culte personnel? Comment est-ce qu'on témoigne? Jésus est Dieu, Jésus est aussi pleinement homme. Qu'est-ce que le péché? Comment est-ce qu'on vit la souffrance en tant que chrétien? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que servir dans l'Église? Etc. Et on transmet tout un tas de notions qui fait que la personne grandit. Et alors cet outil est reproductible. Donc une fois que la personne l'a fait, on la laisse cheminer quelque temps, et puis imaginons qu'un de ses amis à qui elle témoigne se convertisse, on va dire, maintenant que ton ami est devenu chrétien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire l'outil avec toi, et c'est toi qui vas le lui donner. Et alors, des fois, franchement, au début, on tremble un peu, hein, quand vous avez quelqu'un qui est converti depuis peut-être un an et que vous lui dites, bah, maintenant, c'est toi qui formes le prochain. Vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, le fait d'avoir des jeunes dans la foi qui font ça, il y a quelque chose, il y a une fraîcheur qui est là et qui fait que c'est tellement puissant. Moi, je veux dire, ça fait plus de 15 ans que je suis chrétien. J'arrive plus à décrire comment c'était les premières fois où j'étudiais la Bible et que Dieu me parlait. Par contre, quelqu'un qui est chrétien depuis un an, il le dit d'une façon qui fait que c'est pas pareil. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on leur dit, souvent, ils disent « Ah, mais si je sais pas répondre, c'est pas grave, tu viens me voir, on le voit tous les deux, on en discute, et donc on encourage la multiplication. » Et encore une fois, pendant que cet accompagnement spirituel se fait, la personne est intégrée dans le culte, dans d'autres choses. Donc elle n'est pas uniquement toute seule avec quelqu'un qui l'enseigne. Ensuite, on va chercher à équiper les personnes. Alors, ce qu'on se dit, c'est qu'au début, c'est un bébé dans la foi. Une fois qu'il a suivi ce premier cursus, normalement, il a appris à poser son culte personnel. Il a appris les principes de base. Et donc, on se dit que sur sa vie de piété, culte personnel, prière, lecture de la Bible, repentance régulière, il n'a pas besoin forcément d'avoir quelqu'un qui le suive tout le temps. Par contre, il a besoin d'amis avec qui cheminer. Et nous, on utilise un outil qu'on appelle les groupes de croissance, GDC, groupe de croissance. Et l'idée, c'est de dire, maintenant que la personne a fait ses premiers pas dans la foi, qu'elle a des bases, on va la mettre avec 2-3 hommes ensemble ou 2-3 femmes ensemble qui, chaque semaine, se retrouvent, se donnent un objectif de lecture de la Bible, typiquement entre 25 et 35 chapitres, se posent des questions, redevabilité, comment as-tu vécu ta semaine, où en es-tu par rapport à tel péché, etc. Et puis s'encouragent à témoigner en priant pour leurs amis non-chrétiens. Et donc l'idée, c'est de dire, sur la vie de piété, la personne a grandi, donc on n'est plus dans une relation verticale maître-disciple, on passe sur des relations horizontales. Et dans le même temps, on va garder un aspect vertical avec un outil qu'on appelle le plan de développement personnel. Alors à la base, cet outil, c'est quelque chose qu'on utilise, nous, en interne à France Évangélisation, pour suivre nos évangélistes. Et chaque année, on leur pose des questions. Quel objectif te fixes-tu pour ta vie de piété? Quel est ton objectif pour ton couple? Quel est ton objectif pour ton ministère? Quel bouquin chrétien vas-tu lire, etc. Et puis moi, je lisais ça et je me suis dit, mais ça me fait un bien fou. Pourquoi est-ce que chaque disciple ne fait pas ça? Est-ce qu'après tout, ce genre d'outils serait réservé pour des gens qui sont dans le ministère? Pourquoi est-ce que le chrétien qui est dans mon église, qui s'est converti il y a 5 ans, qu'on a baptisé et à qui depuis on n'a pas donné grand-chose, pourquoi on ne lui proposerait pas ça? Et ce qu'on s'est dit, on va prendre un chrétien mature et la personne va faire son plan de développement personnel avec ce chrétien plus âgé. Et 2 fois par an, peut-être, ils vont se retrouver, ils vont parcourir le plan ensemble et ça va mettre au défi. Et l'avantage de faire ça, c'est que quelque part, vous êtes dans de la formation continue tout au long de la vie, finalement. Donc on met des composantes un petit peu mentorales dedans. Et en fonction des dons qu'on trouve vers la personne, on va la diriger vers des personnes plus âgées qui auraient les mêmes dons et qui pourront l'équiper. Et tout en faisant ça, on continue à lui expliquer comment témoigner et on continue à lui demander d'enraciner des plus jeunes dans la foi. Et puis une fois que la personne, quelque part, a atteint une certaine maturité, elle a découvert ses dons, elle est capable de témoigner, elle est capable de commencer à faire des disciples, on va lui dire, maintenant, tu vas apprendre à d'autres chrétiens comment en enraciner d'autres. Et en fait, quelque part, on les envoie dans le mandat d'être des disciples qui font des disciples. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils continuent à être dans un groupe de croissance, on les met en responsabilité de faire des disciples. Et puis, on va aussi horizontaliser cette relation du plan de développement personnel avec une relation par pair. On va dire, il y en a plusieurs qui en sont au stade où ils savent faire des disciples d'eux-mêmes. On les met 2 par 2, 3 par 3, et ensemble, ils se disent, tiens, c'est quoi, toi, tes défis pour l'année qui vient? Ils se retrouvent 1 fois par trimestre, 2 fois par an, et puis ils prient ensemble. Donc voilà ce qu'on essaie de mettre en place. Dans la pratique, on commence à être pas mal sur la première partie. Bien sur la deuxième, on est en train d'équiper pas mal de personnes à faire l'enracinement. Et le défi, c'est d'arriver à basculer au stade envoyé. C'est-à-dire des gens qui non seulement enracinent d'autres, mais équipent d'autres à enraciner. Et moi, c'est quelque chose que je me rends compte dans les églises. Souvent, on fait l'évangélisation. L'enracinement, parfois, on se limite à des préparations au baptême. Et dès qu'il s'agit d'expliquer comment faire des disciples, en fait, c'est réservé un petit peu à ceux qui sont sortis de l'église et qui ont été à l'école biblique ou dans des formations, type cours de week-end, etc. Et c'est un petit peu un des dangers. Alors parfois, quand on dit tout ça, on nous dit, mais attends. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tout chrétien devrait être un évangéliste. Moi, je dis non, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas parce qu'on fait des disciples qu'on est un évangéliste, je pense que c'est 2 choses différentes. Et c'est un autre levier, si vous voulez développer une culture d'évangélisation, c'est de redécouvrir une saine articulation entre les évangélistes et les témoins. Quelle est ma position sur le sujet. Si on regarde les exhortations à évangéliser dans le Nouveau Testament, vous vous rendrez compte que c'est souvent orienté, chaque fois, sur des individus ou des individus qui s'appliquent à eux-mêmes. Par exemple, Paul qui dit « Malheur à moi si je n'évangélise ». Il va dire à Timothée « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Vous avez Philippe l'évangéliste. Et puis vous avez dans les Actes les apôtres qui prêchent, mais il est dit que le reste du peuple se tenait à l'écart. Ils étaient contents, ils étaient en haute estime, ils priaient pour eux, ils sont avec eux, mais ils se tiennent à l'écart. Par contre, vous avez deux textes qui parlent d'interaction avec ceux du dehors qui sont adressés à tout chrétien. Un qui est dans Colossiens et un qui est dans Pierre, 1 Pierre 3,15. 1 Pierre 3,15 dit « Soyez prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous ». Et Colossiens 4, on va le lire, il s'agit aussi de savoir répondre. Et donc je pense qu'il y a une différence entre un évangéliste qui est appelé à aller annoncer l'évangile et un chrétien à qui on demande quelque part une attitude un petit peu différente. Et on voit ces deux types de profils dans un texte qui se trouve dans Colossiens au chapitre 4, les versets 2 à 6, et on va le lire ensemble. C'est Paul qui écrit aux Colossiens, et voilà ce qu'il leur dit. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Dans ce texte, deux groupes de personnes. D'un côté, vous avez les Colossiens, et de l'autre côté, vous avez le « nous », c'est Paul et ses compagnons, Timothée, Epaphras, et puis peut-être qu'il y en a d'autres avec lui, mais dans le contexte, c'est l'équipe missionnaire de Paul. Et si on regarde, pour les Colossiens, qu'on pourrait appeler les témoins, il est question de persévérer dans la prière, d'avoir une conduite sage au milieu du monde, et de savoir répondre. Donc on n'est pas en train de leur demander d'aller et d'annoncer l'évangile partout. Par contre, Paul demande à ce qu'ils puissent annoncer la parole, et certaines versions utilisent le mot « proclamer le mystère de Christ », et ça, c'est le rôle des évangélistes. Donc autrement dit, je pense que tout chrétien est appelé à être un témoin. C'est-à-dire là où Dieu le place dans son champ qui est le monde, il est appelé à se manifester une conduite digne de l'évangile, à savoir répondre de façon intentionnelle. Vous avez vu qu'il est question de racheter le temps. Donc c'est pas simplement j'attends patiemment qu'on me pose des questions. Je peux aussi un petit peu les susciter, j'ai envie de le faire. Mais fondamentalement, il n'est pas forcément appelé à aller faire tout en porte-à-porte la cité d'à côté. À l'inverse, vous avez des évangélistes dont eux, le ministère, c'est de prendre l'évangile d'un endroit où il est et de l'amener là où il n'est pas encore. Et alors le problème qu'on a, c'est que si vous êtes un évangéliste comme moi, et je l'ai fait pendant des années, vous avez tendance à croire que tous les chrétiens doivent faire comme vous. Et au lieu de les laisser être des témoins et faire des disciples, vous leur dites « Hé, viens avec moi faire du porte-à-porte !» Et puis vous avez la personne « Non, non, si, viens !» Et puis vous le traînez, et le gars, il est découragé, et c'est normal. Et parfois, on se dit « Mais non, mais ça va pas, tu désobéis. » Mais si, ça va en fait. On est juste en train de projeter notre appel sur la personne. A l'inverse, l'évangéliste, bien sûr, il doit aller annoncer l'évangile, mais il doit aussi être un témoin. Et surtout, si vous regardez dans Éphésiens 4, il est dit que Christ a donné les uns comme évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère. Et je pense que l'évangéliste, bien sûr, c'est celui qui va annoncer l'évangile, mais c'est peut-être aussi et peut-être surtout celui qui va équiper tous les autres à être des témoins là où Dieu les place. Et je pense qu'un des plus grands problèmes que nous avons dans nos églises, c'est que nous passons notre temps à recruter les gens qui sont investis dans le monde, dans nos projets d'évangélisation, et franchement, c'est pas là où il faudrait qu'ils soient. Du coup, on les désengage de la mission de la semaine, de leur temps, de là où Dieu les a mis, alors que finalement, on devrait renverser le mouvement. Moi, je pense que les chrétiens dans l'Église devraient être équipés pour être des disciples en mission la semaine là où Dieu les place quand l'Église est dispersée. Et si on fait ça, on se retrouve avec tout un peuple de chrétiens équipés pour le témoignage, équipés à partager sa foi, équipés à faire des disciples, et puis des évangélistes qui ont une posture de formateur. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier point pour développer cette culture d'évangélisation de discipulat, libérer des leaders formateurs, non seulement des évangélistes, mais aussi d'autres, des pasteurs, etc. Éphésiens 4, verset 11, c'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et puis le verset 16 ajoute, de lui, Christ, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement. Qui sont les jointures? Ce sont ceux qui sont cités au-dessus, qui agissent pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas, entre guillemets, ceux qui sont à temps plein ou ceux qui ont un don spécifique qui devraient faire le boulot. C'est à tout le peuple de Dieu de le faire, d'être en train de se multiplier. Qu'est-ce que font les autres ? Eh bien, ils agissent de façon particulière selon leur don, et surtout, ils équipent ces chrétiens à le faire. Et je pense donc, quelque part, qu'un bon pasteur, c'est celui qui prend soin du troupeau, mais c'est peut-être aussi, et peut-être en premier lieu, celui qui équipe les chrétiens à veiller les uns sur les autres. Un évangéliste, c'est celui qui annonce l'évangile, mais qui équipe les chrétiens à témoigner. Un bon docteur, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui non seulement va annoncer la parole de Dieu avec droiture, mais qui va aussi équiper les chrétiens à s'exhorter, s'édifier les uns les autres. Et lorsqu'on fait ça, on pousse les gens, en fait, vers la maturité. Et très vite, quand on fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? D'autres leaders vont émerger. Parce que si vous poussez les disciples dans une démarche d'avancée, où dès que vous êtes devenu chrétien, on vous enracine, on vous aide à trouver vos dons, on vous équipe selon vos dons, on vous libère dans le fait de faire des disciples, parmi eux, vous allez découvrir des gens qui ont une fibre d'évangéliste, des gens qui ont une fibre d'enseignant, des gens qui ont une fibre pastorale. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ces gens-là ? Eh bien, il va falloir les mettre en place. Et parfois, on me dit, mais attends, si on te suit, bientôt, dans notre église, on va avoir 20 diacres, 20 anciens, peut-être 5 pasteurs, 5 évangélistes. Et je dis, c'est pas grave. Parce que la mission n'est pas pensée pour l'église. La mission, elle est pensée pour le monde. Et dans la ville où je suis, Saint-Étienne, nous avons 200 000 habitants, 450 000 si on compte Saint-Étienne Métropole, on est 10 églises du CNEF. Si on compte une pour 10 000, c'est très peu. Il y a de la place pour 50 églises. Franchement, si demain j'ai 30 leaders dans mon église, mais gloire à Dieu, on ouvre deux églises à côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que quand on parle de multiplication d'églises, la première chose que nous devons retrouver, c'est cette multiplication de disciples, cette multiplication de leaders, pour simplement que le reste se fasse naturellement. Christ ne nous a pas demandé de planter des églises, il nous a demandé de faire des disciples. Et si on les envoie dans la mission, naturellement, avec les leaders qui suivent, l'implantation d'églises se fera de façon automatique. Qu'est-ce qu'on fait ? On les identifie, on les forme, on les met en place pour que ces gens, les jointures, puissent former tous les autres chrétiens. Et je pense que ce que ça va impliquer souvent, c'est de s'appuyer sur des personnes plutôt que sur des programmes. Et souvent, quand on parle d'évangélisation dans l'Église, nous avons une commission d'évangélisation qui est chargée d'organiser des activités. Et je pense que nous devrions réfléchir, plutôt que d'avoir une commission d'évangélisation, à avoir peut-être une équipe d'évangélistes, des gens qui ont le don, et à qui on va dire, voilà, votre ministère, c'est d'annoncer l'Évangile, en développant pourquoi pas des projets, des activités, et d'équiper les autres à être des témoins. On prie pour vous, on vous laisse le faire, vous rendez compte aux anciens, mais c'est votre ministère, on vous envoie dedans. Et quand on libère des gens comme cela et qu'on leur laisse une certaine autonomie, eh bien en fait, ils commencent à le faire. S'ils sont outillés, ils le font et ça se multiplie. Alors le problème, c'est que parfois l'Église, bah, du coup, c'est plus flou, c'est moins structuré, l'organigramme est plus confus. On perd un petit peu en visibilité, mais au fond, c'est le peuple missionnaire de Dieu qui se met en mouvement. Alors par où commencer si vous voulez mettre ça en place dans votre Église ? Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'abord à dessiner un modèle. Vous notez, voilà ce qu'on voudrait mettre en place, voilà comment on va travailler sur la conviction, quelle formation on va donner, voilà notre écosystème, voilà les outils qu'on pourrait choisir pour faire des disciples, voilà comment on le voit. Et puis ensuite, vous allez regarder la culture en place et vous allez les comparer avec votre modèle. Et alors le piège quand on veut changer la culture, c'est parfois de se concentrer uniquement sur les nouvelles choses qu'on voudrait mettre. Et c'est le meilleur moyen de se griller tout de suite. Parce qu'en fait, on attaque quelque chose qui fondamentalement marche et que les gens aiment bien. Donc ce qu'il faut faire, je pense, et moi c'est comme ça que j'ai tendance à fonctionner, c'est de regarder qu'est-ce qui va déjà dans le sens de la nouvelle culture. Vous avez vu que par exemple, quand on parle de former les chrétiens au témoignage, Paul leur demande de prier, de se conduire avec sagesse, de savoir répondre. Si vous avez une réunion de prière, gardez-la. Il n'y a pas besoin de l'enlever. Non seulement on la garde, mais ça sera toujours présent dans la nouvelle culture. Donc, on l'encourage. Ce qui va dans le sens de la nouvelle culture, on l'encourage, on s'investit dedans. Ça montre qu'on est pleinement solidaire du projet de l'Église, et donc, quelque part, on gagne de la confiance. Et puis, il y a des choses qui sont neutres. C'est-à-dire, ça ne va pas forcément dans le sens de développer une culture de discipulat, mais ça ne le freine pas non plus. Et bien, quelque part, ces choses-là, pourquoi les enlever ? On va simplement les laisser fonctionner. Peut-être que nous, personnellement, on ne va pas s'investir dedans, mais on laisse fonctionner, ce n'est pas gênant. Et puis vous avez des choses qui sont contraires à la nouvelle culture. Eh bien, ce que je vous encourage à faire, c'est plutôt que de chercher à dire « ça, on ne fait plus, on va faire autrement », de laisser ces choses-là faire et de tranquillement, à côté, de démarrer quelque chose de parallèle, sans attaquer ce qui se fait déjà. Et si ce que vous faites en parallèle permet de commencer à avoir des gens qui se convertissent, des disciples qui le multiplient, en fait, naturellement, les autres qui font avec les anciennes autres vont se poser la question « pourquoi est-ce que là, ça marche et que nous, ça ne marche pas ?» Et donc, en fait, on va pouvoir commencer au fur et à mesure qu'ils s'intéressent à les former, et petit à petit, la culture va être changée. Et c'est un petit peu comme quand on a une bassine d'eau sale, vous avez deux possibilités, ou bien vous jetez tout, et puis vous remplissez avec de l'eau propre, ou alors vous ouvrez le robinet au-dessus, et naturellement, petit à petit, l'eau va s'éclaircir, et ça va changer. Et en fait, quand on change une culture, on est en train de changer un système. Et de changer un système, eh bien, ça demande de le faire étape par étape, et ça peut prendre du temps, mais c'est comme ça qu'on évite de tout casser, parce que si on casse tout, ce n'est pas une solution non plus. Une manière de faire, c'est de commencer par les points qui ne peuvent pas être comparés avec ceux qui existent déjà, avant de modifier des choses plus visibles. C'est-à-dire, certains, par exemple, vont dire « nos cultes sont trop sur un mode consommateur, ils n'encouragent pas assez à faire des disciples, changeons le format du culte ». Franchement, c'est la dernière chose à faire. Parce que le culte, c'est la partie la plus visible, c'est peut-être là où les gens se sentent le plus l'Église, surtout s'ils sont dans un mode consommation. Et si vous touchez ça, en fait, vous allez les perdre, vous touchez au symbole. Une manière de faire, c'est par exemple, beaucoup d'églises n'ont pas de structure de redevabilité. Vous avez peut-être des groupes de maison, vous faites peut-être de l'enseignement pour les jeunes convertis, vous avez le culte, mais vous n'avez pas de structure de redevabilité. Eh bien, démarrer des groupes de croissance. C'est un truc nouveau, donc ça ne gêne pas qu'on rajoute du nouveau. Les gens aiment la nouveauté, et s'ils aiment, ils vont se dire « ah, mais ça, c'est bien ». Et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est sur l'accompagnement spirituel, de dire « bon, ben, on laisse ceux qui sont déjà dans l'église, mais ce qu'on se dit, c'est que tous les nouveaux convertis qu'on va avoir, dorénavant, ils vont passer par un nouvel outil. » Et comme ça, on ne touche pas à l'existant. Et puis si quelqu'un dit « ah ben moi, j'aimerais reprendre les bases », il y en a parfois qui disent ça, on va aussi les faire passer dans le nouvel outil, même s'ils sont un peu plus loin. Et puis si quelqu'un dit « ah, ça a l'air bien votre truc, comment vous faites ? Tiens, ben, viens, on va te montrer et on va te former. » Et puis après, vous pouvez commencer à dire « mais tiens, dans les groupes de maison, si au lieu simplement de recevoir, on se posait aussi la question « comment ça s'est passé notre semaine passée ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Quel est le défi pour la prochaine semaine ?» Eh bien, quand on va faire ça, les gens vont le vivre. Et une fois qu'ils vivent ça dans les groupes de maison, ils vont se dire « mais c'est bien cette manière de faire. Nos cultes sont tellement un petit peu rigides à côté. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à les changer, les revoir un petit peu aussi ?» Et quand les gens commencent à vous dire ça, en fait, vous avez gagné. Parce que c'est que la culture a déjà changé et que le mouvement s'accompagne. Pour faire ça, il va falloir impliquer la communauté, ou au moins ses leaders, dans la réflexion. Et vous pouvez faire des réunions, vous faites travailler les gens. Nous, on a fait ça dans notre église. Moi, j'avais choisi d'être l'animateur et de ne pas donner mon avis. J'ai mis les gens en groupe en mélangeant des membres, des gens du conseil d'église, des gens du conseil d'anciens. Surtout pas faire un groupe avec que les anciens d'un côté, parce que sinon, vous risquez d'avoir l'église contre les anciens. On a fait 3-4 groupes, et puis on leur a posé la question, voilà ce que la Bible dit par rapport à la mission. Dans notre église, quelles sont nos forces par rapport à ça ? Quelles sont nos faiblesses ? Quelles sont les opportunités que nous avons ? Quelles sont les menaces ? Si vous avez fait un peu de consulting dans le monde du business, c'est ce qu'on appelle une matrice SWOT, hein, ça permet de faire un diagnostic. Et donc ça nous a donné une carte d'identité de l'Église. Et puis dans un deuxième temps, une fois on s'est retrouvés, et on a demandé aux gens de dire, mais d'après vous, quels sont les gens dans notre quartier qui pourraient être en connexion avec l'Église ? Soit parce qu'ils habitent dans le quartier, soit parce qu'ils sont en relation. Et puis on a fait des profils types. Alors certains nous ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Tu es en train de dire que dorénavant, notre église, ça sera plus que pour les retraités de l'immeuble d'en face. Je dis, non ! Mais la réalité, c'est que ces gens-là sont à côté, il y a de fortes chances qu'ils viennent. Donc on a fait quelques profils, et on les a fait vraiment à fond. C'est-à-dire que nous avions, par exemple, à Saint-Étienne, on a une grosse population de musulmans. Donc on avait un profil, un gars qui s'appelle Saïd, qui a 40 ans, qui est carreleur, etc., qui est d'origine marocaine. Et puis on avait vraiment tout détaillé. Et ensuite, on a demandé aux gens, maintenant imaginez, dans 5 ans, si notre église allait bien, à quoi ça ressemblerait ? Et chaque groupe a commencé à écrire une histoire. Et puis on a dit, mais au milieu qu'ils étaient en train de le faire, on a dit, vous vous arrêtez, vous vous rappelez des personnes à qui on a pensé avant. Et vous vous dites, quel rôle auraient ces personnes dans notre église ? Et les gens ont commencé dans leur histoire à raconter que le fameux Saïd s'était fait baptiser, qu'il commençait à être formé comme disciple, etc. Et donc qu'est-ce qu'on était en train de faire ? C'est que quand les gens ont dit quelle est l'église qu'on rêve, ils pensent l'église pour eux. Quand on commence à intégrer ceux du dehors, ils commencent à penser l'église pour le monde. Et donc là, vous êtes en train de les mettre en mouvement sur la mission. Et puis après, on a comparé les différentes histoires. Chaque groupe a lu son histoire. Et on réfléchissait quels sont les 4 ou 5 grands axes qui ressortent. on a mis en commun ceux qui ressortaient le plus, c'était ceux de l'Église. Et vous savez quel était le bilan des courses à la fin de l'exercice? Et j'étais franchement le premier surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit si clair. Mais les choses qui ressortaient le plus, c'est on veut être une Église qui évangélise au près au loin, on veut être une Église qui multiplie les disciples, on veut être une Église qui implante d'autres Églises, on veut être une Église ouverte à tous, et on veut être une Église qui est aussi engagée dans la cité. Et donc quand on fait réfléchir les gens, et moi le premier, j'étais en train de me dire, mais ils vont sortir des choses pour eux. En fait, quand on leur dit, voilà, il y a une mission, il y a des gens qui sont là, si on pensait l'Église dans leur sens, à quoi ça ressemblerait? Bien, les gens, ils ont le Saint-Esprit en eux, et il y a quelque chose qui se réveille. Et après, derrière, vous pouvez dérouler votre écosystème, il n'y a pas de souci. Donc n'ayez pas peur, travaillez avec les gens, allez-y progressivement, et vous serez peut-être les premiers surpris de voir comment Dieu peut créer à nouveau une nouvelle culture dans votre Église. Je termine avec quelques ressources pour aller plus loin. Un très bon site, disciples.fr, c'est des praticiens qui l'ont monté, différents praticiens du discipulat en France, il y a des tas de ressources. Des outils dont je vous ai parlé, 7 signes de Jean, leçon de vie spirituelle, groupe de croissance, vous trouverez plein de choses qui sont expliquées là-dessus. Il y a même d'autres outils que je n'ai jamais testés, vous pouvez les tester, vous me direz s'ils sont bien. Et du coup, vous avez ce site-là, il y a aussi beaucoup de ressources qui viennent des travaux de la commission apprentissage implantation du CNEF qui sont dessus. 9 unions d'églises qui ont travaillé ensemble sur ces questions, avec des consultants internationaux sur ces sujets, beaucoup de vidéos là-dessus. Plusieurs livres, un bon livre édité par l'IBG, « L'essentiel dans l'église » de Colin Marshall. Il reprend un petit peu ces 4 phases, avec des termes un peu différents, mais évangéliser, enraciner, équiper, envoyer, et montre comment on peut créer ça reproductible avec des leaders formateurs au lieu d'avoir des leaders plutôt prestataires. M2D, en anglais, ça s'appelle T40, un bouquin de Steve Smith, qui raconte un mouvement extraordinaire de multiplication de disciples et d'églises en Chine, et comment ils ont développé ça à partir de petits groupes, et ce qui a donné naissance à 140 000 églises. Quelque chose d'incroyable. Hein. Beaucoup d'églises de maison, mais aussi certaines qui sont devenues même des méga-churches, etc. Et ça se base sur des groupes de maison où les disciples sont encouragés à reproduire une bonne ressource. Pour l'évangélisation, Sortir de sa bulle, de Rebecca Pippert, les anciens connaissent peut-être La saveur partagée, qui est un best-seller il y a quelques années, le titre a changé, c'est l'édition révisée qui a été traduite. C'est un des meilleurs livres sur le témoignage personnel. Si vous voulez équiper les chrétiens au témoignage personnel, vous pouvez regarder, il est bien. L'évangéliste sous toutes ses formes, si vous posez des questions sur comment mobiliser des évangélistes dans vos églises, de Raphaël Hansenberger, et puis une Bible du Café des Disciples, de Neil Cole, qui parle des groupes de croissance, voilà, quelques livres, il y en aurait d'autres, Évangéliser à la manière du maître, de Coleman, des choses comme ça. Voilà, il y a beaucoup de ressources. Encore une fois, l'important avant les techniques, c'est avant tout la conviction. Est-ce que nous sommes convaincus que l'Église est faite pour être missionnelle et que chaque chrétien doit s'impliquer?